Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, cet après-midi, on a prêté l'antenne de Graphite à des étudiants et étudiantes de l'UTC qui, donc, dans le cadre du cours WE1, un cours qui aborde la question des technologies du web sous les angles théoriques, pratiques et culturels. Et bien, dans ce cadre-là, donc, des étudiants et étudiantes viennent nous présenter les travaux qu'ils ont réalisés ce semestre. Donc pour cette deuxième émission de l'après-midi, on va parler low-technicisation du web et impact de la publicité. Et donc pour ça, je suis en studio avec Bastien Lahaye-Jusant. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Et Kylian Grislin. Bonjour Kylian.
Bonjour.
Eh bien donc bonjour à tous les deux. Alors donc on va parler, comme je l'ai dit, impact de la publicité. Donc la première partie, Kylian, tu vas nous parler du fonctionnement global du marché publicitaire. Ensuite Bastien va nous parler impact de la publicité sur le web. Et donc Kylian reparlera à nouveau dans une troisième partie pour nous parler de quelques pistes qui permettent de limiter l'impact écologique de la publicité donc sur le web. Eh bien, si vous êtes prêts, si tu es prêt, Kylian, je te passe la parole pour la première partie et nous parler du fonctionnement du marché publicitaire.
Ok. Alors, bonjour. Déjà, il existe plusieurs types de publicité. Je vais d'abord vous parler de la publicité qui s'appelle display, donc c'est la plus commune. C'est souvent l'apparition de messages ou de fenêtres publicitaires directement sur le site, ou même de bannières. Il y a souvent... ce type de publicité, on les retrouve quand on ouvre un site internet et c'est souvent des photos ou des vidéos à visée publicitaire qui sont directement intégrées à la page, autour ou au milieu des informations qui nous intéressent véritablement, ce pourquoi on a cliqué en fait sur le lien. Ces annonces, elles vont directement apparaître au centre de l'écran, comme c'est le cas pour certaines lettres d'information, donc les newsletters. Nécessitant l'action de l'internaute pour fermer cette annonce et accéder aux informations du site web ou renseigner son adresse mail pour recevoir les offres de l'annonceur. Alors l'autre type de publicité, c'est la publicité search. Elle utilise quant à elle des hyperliens redirigeant l'internaute sur le site web de l'annonceur. En gros, par exemple, vous allez sur le moteur de Google et tout en haut, vous aurez un lien d'un site avec marqué à côté « annonce ». Donc c'est des gens qui ont payé pour être là. C'est difficile de les dissocier souvent des autres liens, à part le petit annonce, parce que sinon ils sont écrits de la même façon, ils sont juste situés tout en haut. Et ça facilite du coup la redirection des internautes qui n'étaient pas venus pour ça, mais vers les sites des annonceurs. Donc c'est souvent grassement payé pour des trucs qui sont les plus importants, sur des mots-clés les plus importants. Souvent la publicité sur le web, elle est personnalisée, via notamment les moteurs de recherche, donc, par exemple Google AdWords, on va vous expliquer ça juste après. Ou les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. La personnalisation des publicités en ligne, elle permet aux annonceurs d'adapter les annonces en fonction des goûts et intérêts de chaque internaute. Donc ça accroît la probabilité que vous cliquiez sur leur publicité. Donc ils fassent plus de ventes, logiquement. Par exemple, si vous avez dans les derniers jours fait une recherche sur votre ordinateur, ou pour un ordinateur plutôt, vous allez voir apparaître des pubs pour des ordinateurs alors que vous n'en aviez pas avant. Donc deux expériences académiques, faites par ECR en 1999 et Bourliato Lajoigny en 2000, nommé Marketing Internet le cas de l'e-publicité, ont déterminé que l'internaute utilise l'outil web pour rechercher activement des informations. Dans ce cadre, et la publicité personnalisée accroît significativement la probabilité de clics sur la bannière. Donc ces études, elles datent de 20 ans à peu près, mais d'après des sondages de 2017 effectués par Adlucent, trouvable sur le site www.adlucent.com. Donc c'est une compagnie de recherche dans le marketing. 71% des personnes qui ont été interrogées par l'organisme disent qu'ils préfèrent des publicités personnalisées parce que ça leur fait gagner du temps et ça évite notamment l'affichage de pubs inutiles à leurs yeux qui vont pas cliquer tout simplement. Par exemple, les recherches sur Google aboutissent à des liens commerciaux. Donc on en a parlé précédemment, sélectionnés par Google AdWords, Ad qui veut dire publicité et Words Moo, en fonction de la nature des mots-clés recherchés par l'internaute. Cela explique pourquoi nous voyons souvent apparaître des annonces de marques ou de thématiques qui nous attirent et correspondent spécifiquement à nos précédentes recherches sur Google.
Quel est le problème ? Eh bien, on observe depuis quelques années 5 dérives principales. Tout d'abord, le nombre d'acteurs de collecte a augmenté considérablement, rendant l'ensemble du système très complexe. Si bien que l'on ne sait plus très bien qui a accès aux données. De plus, certaines applications collectent les données trop massivement, sans respect de la vie privée. Et ces collectes sont parfois disproportionnées par rapport aux services rendus. Ainsi, de nombreuses données peuvent être collectées malgré l'activation d'une minuscule fonctionnalité. Une autre dérive vient du manque d'information de l'utilisateur, pour qui la collecte se fait à son insu. Plus intrusif encore, le tracking numérique est parfois remplacé par un tracking physique. À titre d'exemple, grâce au numéro de série du smartphone, diffusé en Wi-Fi, les régies peuvent savoir dans quel magasin nous nous trouvons, où nous travaillons et qui nous voyons.
Donc l'extrait que vous avez entendu, elle vient d'un extrait de vidéo YouTube qui s'appelle « Collecte de données sur smartphone » du 19 juin 2017 par l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Donc il nous explique que nos données sont récupérées en grande quantité sans que nous soyons au courant sur notre smartphone et même quand l'application n'est pas lancée manuellement. Donc on ne sait pas réellement non plus qui a accès à toutes ces informations qui sont récupérées. Les marques, elles connaissent énormément de choses sur nous, même au dehors du numérique. Ça peut même aller les personnes que vous avez rencontrées donc dans la vie, en marchant, dans la rue. Donc c'est un problème pour la vie privée, mais du coup elle n'est plus vraiment privée, mais aussi pour l'environnement. Mais les publicités sur le web, c'est pas uniquement l'association de mots-clés et d'annonces publicitaires. C'est un marché très important qui s'est développé autour de la collecte de données et des publicités ciblées, comme c'est le cas de la grande majorité des applications sur smartphone. Elles permettent cette collecte. Elles sont souvent fournies par des tiers parties sous forme de services à des développeurs ou des entreprises. Par exemple, les jeux mobiles qui passent souvent par, la majorité du temps par Google Play Store sur les Android. Ça permet aux géants Google de collecter plein de données des utilisateurs. Donc la position actuelle ou encore toutes les informations personnelles, donc nom, prénom. Ça peut même aller jusqu'aux coordonnées bancaires s'ils ont besoin de faire des achats in-game, donc dans le jeu. Ce procédé permet la mise en place des publicités ou d'annonces plus ciblées avec des thématiques qui vont attirer l'utilisateur grâce à son intérêt pour une application spécifique. Mais beaucoup de ces données collectives ne se limitent pas simplement à cerner les intérêts et préférences des internautes car de nombreux paramètres vont être analysés, donc l'âge, la localisation, le genre, les fréquentations et bien d'autres. Donc, ensuite, on va amorcer sur l'environnement.
Je te propose qu'on prenne quelques questions avant, oui, Kylian, ça te va?
Ouais.
Alors écoute, s'il y a Marie-Anaïs qui nous propose une première question, alors c'est des questions un peu générales, si vous avez des éléments. Quel est selon vous le type de publicité, parmi les exemples que tu as cités ou d'autres que vous avez en tête, on va dire la façon de faire de la publicité en ligne qui serait la plus efficace d'un point de vue commercial? Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui marche bien, ce qui marche moins bien? Vous avez quelques éléments autour de ça?
Comme on l'a dit plus tôt, c'est celles qui vont apporter le plus de clics, c'est celles qui sont personnalisées directement parce que les gens en ont besoin directement. L'annonce est censée être faite pour eux et être proposée pour eux. Donc il y a plus de réussite sur ces annonces. Donc 71% des personnes, comme on l'a dit, préfèrent ces annonces-là à des annonces normales qui ont beaucoup moins de réussite.
Ok, donc ça, c'est les études que vous avez consultées vont ouais. En ce sens-là, n'est-ce pas? Vas-y, ajoute quelque chose, je t'en prie.
Aussi, si on veut par exemple savoir entre les publicités de type display et de lien de recherche, c'est souvent celles de type display qui vont être les plus attirantes, parce qu'une fois que les personnes ont compris les liens, qu'en général les premiers liens ce sont des annonces, ça arrive que les personnes prennent l'habitude de les passer et de regarder directement plus bas, alors que celles de display elles sont directement dans le champ périphérique, mais ça on va en parler justement juste après.
Ok, il y a d'autres questions, mais de la même façon, je vais également les garder pour la suite, puisqu'elles sont en lien avec ce dont vous allez nous parler, je crois. Eh bien, Bastien, puisque tu as pris la parole pour compléter la réponse, je te propose de la conserver et donc de nous parler maintenant impact de la publicité sur le web.
Alors, un des effets indirects de la publicité en ligne, ça va être l'incitation à la surconsommation, qui va en fait favoriser l'apparition sur le marché ou la mise en lumière de nouveaux produits ou de produits déjà existants qui sont parfois nocifs pour l'environnement. Cette incitation à la surconsommation va avoir en fait un impact écologique en termes de production, de transport de marchandises ou encore de gestion des déchets. Dans une étude qui a été réalisée par Courbet et Hall en 2018, il a été montré que, sans en avoir conscience, les messages publicitaires en fait, sont perçus dans le champ visuel périphérique de l'utilisateur et influencent ainsi l'internaute dans ses intentions d'achat. Donc, c'est principalement le cas avec les publicités de type display. En effet, donc, le champ visuel périphérique, qui constitue à peu près 95% de la vision, permet sans attention visuelle de percevoir des informations provenant de l'environnement. Et donc, les publicitaires vont avoir recours à des techniques de persuasion et de manipulation pour attirer l'utilisateur, comme par exemple des stimuli de couleur qui vont conditionner nos décisions. Donc, à ce titre, il y a Singh, dans une étude qu'il a réalisée en 2006, qui a montré que la couleur rouge, par exemple, était très communément utilisée pour la publicité, car elle captait notre attention. Et on a un exemple très commun avec ça, qui est assez connu, c'est les publicités Coca-Cola, qui mettent beaucoup en avant la couleur rouge, avec notamment le Père Noël, qu'on connaît bien, qui d'habitude, normalement, n'a pas du tout la couleur rouge. Le Père Noël est très connu avec sa tenue couleur rouge, mais à la base, il faut savoir que le Père Noël est de couleur verte et habillé avec des tenues vertes. Donc, en dehors de la façon dont sont représentées les publicités, on va aussi avoir leur répétition, qui va avoir un impact sur le comportement d'achat des consommateurs. Toujours selon Didier Courbet, dans son étude, il montre que les consommateurs sont quotidiennement confrontés à 10 000 marques, ce qui inclut aussi les publicités sur le web. La publicité en ligne va en fait créer de manière continue un besoin qui n'existe pas forcément chez le consommateur, ce qui est par ailleurs la fonction même de la publicité que déclencher une nécessité chez le plus grand nombre de personnes. Donc on va ainsi avoir la publicité qui va nous déconnecter totalement de la question du besoin, de nos propres besoins, mais aussi de l'impact environnemental de notre consommation. L'ensemble des procédés qu'a énoncé Kylian précédemment, bien qu'étant sur le web, sont de plus bien loin d'être virtuels, ce que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Pour s'en rendre compte, nous allons écouter un petit extrait audio d'une vidéo YouTube disponible sur la chaîne de France 24, qui date du 3 janvier 2017, qui va parler justement de l'impact d'Internet sur l'environnement.
Quand on pense Internet, on imagine toujours un monde virtuel flottant dans les airs. Non, Internet, c'est bien concret et c'est sous nos pieds. Des câbles partout dans le monde. L'énorme majorité sous les océans, 300 autoroutes, des milliers de kilomètres de matériaux qu'il faut installer, entretenir. La quasi-totalité du trafic Internet mondial. Et on en installe d'ailleurs toujours plus. D'ici l'été 2018, un câble sous-marin ultra-rapide va même traverser le Pacifique entre Los Angeles et Hong Kong sur 13 000 km. Mais ces câbles, ils servent à quoi ? À amener nos informations vers les usines de l'ère digitale, les data centers. Des monstres énergivores qui doivent être alimentés en électricité, des monstres qui surchauffent en permanence et qu'il faut climatiser.
The facility is approximately the size of 10 football fields and houses tens of thousands of high-performance processing and storage servers in high-density racks that are separated by hot and cool air aisles on a traditional raised floor.
Alors, cette vidéo, bon, qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité, nous explique que pour que l'on ait accès au web, et donc qu'il y ait des publicités en ligne, des serveurs physiques doivent constamment fonctionner pour faire office de banque de données, qu'on appelle aussi plus communément les data centers. Donc, ces data centers vont servir en fait pour établir des profils, en stockant donc les données des utilisateurs, ou alors tout simplement permettre le partage des données. Donc, cette matérialité va impliquer une consommation électrique qui est liée à la nécessité de refroidir les serveurs, de les maintenir en marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de les entretenir, expliquant en partie donc, l'impact écologique du web. Mais donc, du côté des publicités en ligne, qu'est-ce que ça donne ? D'après une étude qui a été réalisée par Simon et Pras en 2010, la consommation énergétique qui est liée à l'affichage d'une publicité sur le web est de 2,5 watts. Alors, cette valeur, elle va varier selon la configuration de l'ordinateur que vous allez utiliser, mais aussi si vous êtes sur téléphone, par exemple. Il va aussi être possible de la réduire en utilisant des bloqueurs de pub, comme Firefox, Adblock Plus ou EasyList. Donc ainsi, on peut réduire de 1 watt environ la consommation pour afficher une publicité, ce qui va nous faire passer de 2,5 watts en moyenne à 1,5 watt. Mais je vous donne des chiffres comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que ça représente ? Bien, les conséquences écologiques de la publicité sur le web à l'échelle mondiale ont été estimées par l'étude Échelle de l'impact environnemental de la publicité en ligne qui a été publiée en 2018 par Parsinen et al. Et qui montre qu'en fait, en 2016, les rejets de CO2 associés à la publicité en ligne auraient représenté 1,5 fois la consommation annuelle d'énergie d'Île-de-France. Pour un autre comparatif, On peut donner, dire que c'est aussi l'équivalent de 60 millions de trajets aériens aller-retour Paris-New York. Donc c'est assez important. Par ailleurs, la publicité numérique nécessite l'utilisation de réseaux télécoms et de centres informatiques pour sa diffusion, qui vont être respectivement responsables de 21% et 15% de l'empreinte numérique, selon une autre étude réalisée en 2021. Donc ces impacts invisibles, entre guillemets, parce qu'on n'y pense pas directement quand on pense aux pubs, doivent aussi être pris en compte en fait, quand on recherche des solutions efficaces dans l'objectif de réduire la consommation publicitaire en ligne. Donc la publicité en ligne contribue beaucoup au réchauffement climatique, que ce soit donc, d'un côté en poussant à la surconsommation, les produits vendus vont être produits en grande quantité, participer à la pollution via des usines et l'extraction des matériaux qu'on utilise qui ne tiennent pas forcément compte des écosystèmes alentour, et aussi du fait de la matérialité du web. On a donc beaucoup d'éléments à prendre en compte en fait, pour, lorsqu'on aborde l'impact écologique de la publicité sur le web et des solutions à considérer pour résoudre les problèmes.
Merci à toi. Alors, on a vu tout à l'heure que la publicité la plus efficace d'un point de vue commercial, eh bien, vous nous avez dit, selon les études que vous avez menées de votre côté et les documents que vous avez lus, eh bien, c'était la publicité ciblée. En revanche, avec ce que tu viens de nous dire là, on pourrait dire que la plus efficace, parfois, c'est la moins souhaitable, puisque du coup, elle va mobiliser de l'énergie directement. Tu nous l'as dit, hein, les data centers, les réseaux, le calcul. Et puis, en plus, elle va générer des actes de consommation qui n'auraient pas eu lieu sinon, et donc qui vont avoir eux-mêmes une empreinte environnementale. Stéphane pose la question suivante. Si on voulait se débarrasser de la publicité ou d'une partie de la publicité, eh bien, comment ferait un hébergeur de sites qui donc paye une infrastructure, des gens pour la gérer, un nom de domaine, etc., etc. Enfin, du coup, il y a un certain nombre de coûts. Est-ce que vous avez une idée d'autres modèles économiques qui pourraient remplacer ou compléter les revenus issus de la publicité? Est-ce que vous avez des pistes autour de ça?
Moi, j'en ai une directe. Je pense par exemple à Wikipédia. Eux, ils utilisent un système de donation directement du public qui va leur donner de l'argent. Après, ça va pas marcher sur tous les sites parce qu'il y a des sites beaucoup plus petits, beaucoup plus gros. Donc, ça va vraiment dépendre de leur, je vais pas dire fanbase, mais des personnes qui sont attachées au site et qui vont vraiment avoir une utilité du site. Mais oui, c'en est une comme une autre. Est-ce que t'en as une autre, toi?
Alors, non, pas spécialement, mais il y a des services qui existent. Je veux pas trop en dire justement pour pas. Prendre des informations sur la partie d'après, mais qui vont permettre justement de séparer un peu des publicités. Et donc Kylian pourra donner un peu plus d'informations là-dessus.
Eh bien écoute, tu as fait la transition toi-même, donc Kylian, tu as la parole pour nous ouvrir à la troisième partie. C'est parti.
C'est parti. Alors, dans l'intervention précédente, du coup, on a parlé de l'impact directement de la publicité sur Internet. Donc diverses mesures ont été prises, mais pour réduire la consommation des publicités sur Internet, comme la mise en place de contenus sponsorisés. Donc, c'est directement un article qui est fait directement sur un produit, donc qui est acheté par la marque, auprès du journal. Donc il y a toujours des publicités, mais elles s'affichent seulement sur une page dédiée, donc ce n'est pas sur toutes les pages du site. Ou des formules donc, d'abonnement sans publicité, par exemple YouTube Premium, donc vous juste payez un abonnement tous les mois et vous n'aurez plus de publicité sur le site. Donc, il existe d'autres pistes ou adaptations que l'on peut mettre en place. Donc, quelques exemples. Déjà, il y a le cadre juridique. Donc, la loi RGPD qui a été mise en place en 2018. Ça impose le consentement de l'internaute pour les cookies permettant son traçage sur Internet. Il y a une mesure similaire qui a interdit l'envoi d'emails ou de SMS sans accord de l'utilisateur. Rendant possible le désabonnement, par exemple, les newsletters. Donc dans votre mail, vous avez tout en bas, vous souhaitez vous désabonner, oui ou non, et du coup, vous ne recevrez plus les mails. Le deuxième point, c'est les systèmes anti-pub et les bloqueurs de pub, donc Avast et Adblock, par exemple. Ces systèmes, ils permettent de bloquer les publicités. Ils induisent quand même une surconsommation de mémoire de l'ordinateur, car tous les bloqueurs de publicité doivent analyser l'ensemble du contenu de la page. Donc Adblock Plus, il a été évalué par un ingénieur logiciel. Donc Nethercott, en 2014, dans l'article Adblock plus Effects on Firefox Memory Usage, que le navigateur consomme 417 MO de mémoire vive avec Adblock plus, comparé à 194 MO sans ce système bloqueur de pub environ. Donc aussi, l'utilisation d'un système anti-pub augmente le temps de chargement des pages web, comme montré dans un article publié dans le New York Times nommé The Cost of Mobile Ads on a 50 News Website par H. Andrews et Keller en 2015, estimant ce temps entre 10 à 80% plus élevé avec un bloqueur de pub sur un iPhone. Le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est le format des vidéos en ligne. Donc l'annonceur, il a recours à l'utilisation de vidéos publicitaires sur son site. Il peut favoriser plusieurs formats, mais qui peut aller de la 180p, 360p jusqu'à la 4K. Donc pour des teasers comme ça, il vaut mieux utiliser des qualités moins élevées, donc ça, parce que ça a consommé moins de données. Et aussi, on a mis la mise en place de services offerts. Donc par exemple, avec la mise en avant de l'urgence climatique, la pression des consommateurs auprès des entreprises devient de plus en plus importante, et particulièrement chez les plus jeunes, avec 92% des 15-24 ans qui réclament plus d'action pour le climat selon e-marketing.fr en 2021. Enfin, e-marketing.fr en 2021. Ces chiffres-là sont tirés d'un sondage effectué par l'IAP France, donc c'est une association créée en 1998 à but non lucratif, qui représente l'écosystème du marketing et de la publicité digitale. Donc c'est trouvable sur iapfrance.com. C'est pourquoi de nouveaux types de services sont amenés sur le marché dans le but de réguler l'empreinte carbone. C'est le cas de l'entreprise Impact Plus, qui propose des solutions numériques comme des indicateurs clés de performance, on appelle des ICP. Ils permettent à l'entreprise cliente d'évaluer à la fois les performances des publicités qu'elle veut émettre, mais aussi d'optimiser la façon dont ces publicités sont émises, pour réduire au maximum son impact carbone du côté de l'entreprise. Par exemple, mettre des publicités sur des sites en thématique accessible, permettant d'éviter l'utilisation d'informations personnelles et de passer par des collecteurs de données, réduisant aussi l'impact écologique sur publicité sur le web. Donc on va maintenant vous passer un extrait d'une vidéo de Greenpeace datant du 12 janvier 2017, dites à Netflix de se mettre ouvert, qui va vous parler de Netflix.
Netflix is always here for you.
You're my best friend. Perhaps your only friend.
Spoon me.
You laugh together. You cry together. You call each other's bullshit.
Friends don't lie.
Yeah, I do want to talk to you about a couple of issues.
Like being powered by dirty energy.
What? What?
Que, por qué?
That's a thing?
No!
Millions of hours of streaming every day.
God.
Running on dirty power like
That's
coal.
Gross.
Why the hell would they do that?
Doesn't make any sense.
When was this decision made? And why wasn't I part of a conversation?
Are you gonna barf? Tell me if you're gonna barf, because there's a can behind you.
Not gonna barf.
It's time to take action.
This is crazy. We can't just wait around.
I want the power to change things.
We gotta do something.
Have an orgy?
No! Stop suggesting that.
I'll do whatever it takes.
It's not rocket science.
Tell Netflix to switch to 100% renewable energy.
We have the opportunity to make history here. And I want all of us to make it together.
Netflix has already changed TV for the better.
Television. You.
Now let's help them change the world.
So what do we do now?
Tell Netflix to go green.
Good luck. We're counting on you.
Greenpeace.org/greennetflix.
Alors, dans cet extrait, Greenpeace fait passer directement une idée en utilisant majoritairement des extraits de séries ou de films qui sont trouvables sur Netflix. Alors, l'association explique que Netflix, elle fonctionne majoritairement avec de l'énergie liée au charbon et demande alors aux personnes voyant cette vidéo de signer une pétition pour essayer de faire changer ça. Alors, je n'ai pas cité avant, mais la mobilisation, c'est une solution comme une autre pour essayer de faire évoluer les choses. Elle est en soi simple à mettre en place, mais dure à faire appliquer, ou même d'être prise en compte par les concernés. Donc ceux qu'on veut faire réagir avec cette pétition, bien sûr. Il n'existe actuellement pas de solution miracle pour réduire les consommations. Chaque personne doit faire attention à sa consommation personnelle. Par exemple, désactivant la prévisualisation de vidéos sur YouTube, ou l'utilisation de vidéos qui sont plus faibles en qualité. Et attendre les mouvements de gouvernement avec une possible mise en place de lois plus dures envers les grandes entreprises. On parle par exemple d'un renforcement de la loi RGPD qui limiterait encore plus les données pouvant être récupérées par les entreprises ou les sites internet. Ou l'interdiction des publicités dynamiques, donc qui consomment plus que des publicités qui sont statiques.
Ok, merci beaucoup Kylian de ces différentes pistes. Il y a Effectivement, Cassandre et Evan qui nous avaient posé les questions suivantes. Est-ce que vous avez des solutions pour réduire l'impact écologique des pubs? Et est-ce qu'il est possible de bloquer les pubs? Et tu as répondu par anticipation à ces questions. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur ce dont on a parlé avant, hein, sur les alternatives à la pub, puisque tu proposes, enfin, j'ai deux points. Donc, tu proposes à la fin... où tu imagines, par exemple, des contraintes légales qui permettraient de diminuer la publicité. Juste mentionner que Ted Nelson, une des figures qui a participé à l'invention, on va dire, ou aux idées qui ont ensuite permis la création du web, avait imaginé un système qu'il a appelé Xanadu, et dans lequel les modes de financement étaient basés sur des micro-paiements. Le principe de micro-paiement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est, en gros, à chaque fois que j'utilise un site, je vais payer, je ne sais pas moi, un centime ou quelque chose comme ça. Et ensuite, les financements, enfin l'argent généré, va être redistribué aux différents éditeurs. Alors on pourrait imaginer que c'est assez utopique, mais finalement les médias audiovisuels en France, ils marchent en partie comme ça, hein, donc c'est pas forcément aussi utopique. Alors c'était pas ma question, c'était juste un petit complément. Je reviens également sur à moins que vous vouliez compléter, hein, mais je reviens sur un autre point que vous avez cité, c'est que vous avez incité au départ sur le fait qu'il se passait un certain nombre de choses au niveau de la captation des données sans qu'on soit au courant. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait d'être au courant ou pas, ça ne change pas forcément grand-chose. Ça rejoint un peu la remarque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au courant, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Parce qu'on commence à être quand même assez au courant. Là, vous nous avez donné des éléments complémentaires, mais on sait finalement que c'est le modèle publicitaire qui fait fonctionner le web, on connaît ses effets négatifs, vous l'avez rappelé sur l'environnement, on aurait pu parler aussi sur les pratiques de surveillance, et pour autant, est-ce que vraiment il est possible de changer ses usages? Est-ce que vraiment vous pensez que ça peut amener des modifications dans nos façons d'utiliser les sites?
Alors là-dessus, on en a beaucoup parlé, notamment dans notre UV, dans notre matière, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus d'applications, de logiciels qui commencent à se développer et à se populariser, qui justement n'ont pas recours à cette collecte de données. On peut parler notamment des chatons, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sont donc des organisations qui proposent des logiciels en fait, sans collecte de données, donc ça peut aller de beaucoup de services comme... ceux déjà proposés par Google, donc vous connaissez sûrement le Google Drive qui permet d'avoir des services comme Word, Slide, ce genre de choses, et on va avoir beaucoup de services comme ça qui vont être mis à disposition gratuitement, librement, et qui ne vont pas avoir de recours de données, pas besoin de créer de compte spécialement, et donc on va pouvoir les utiliser sans se soucier justement de cette collecte de données. Et donc il y a aussi beaucoup de services comme de la géolocalisation, il y a énormément de services qui sont mis, le problème c'est que c'est pas encore... très popularisé, il faut que ça se popularise et les gens ont beaucoup de mal à lâcher leurs habitudes pour passer à ce genre d'application, en fait, de logiciel.
Je pense que c'est quelque chose qui va se faire surtout sur du long terme, pas sur du court terme, donc il faut d'abord sensibiliser le maximum de personnes, sensibiliser leurs enfants, puis leurs enfants, puis leurs enfants, et au bout d'un moment, forcément, tout le monde s'y mettra, on sera peut-être obligé même de le faire, d'autres sites ne sont peut-être pas supprimés, mais au moins... moins légalisé, moins présent, ou peut-être limité en accès. Et donc, ce sera plus important de sensibiliser d'abord, en fait, même si ça ne va pas changer dès demain.
Eh bien, merci, Kylian, pour ce message d'espoir. Donc, tu informes les militants du libre que les enfants des enfants des enfants, donc d'ici à peu près 75 ans, eh bien, les effets vont finir par se produire. Donc, restez motivés. Je note aussi que c'est la deuxième émission de suite où on mentionne les chatons. Donc, j'ai l'impression que dans l'UV, cette partie passe mieux que la partie sur la raison computationnelle. Pardon, Bruno, hein, mais voilà, c'est comme ça que, visiblement, c'est ressenti. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, et puis eh bien, bonne continuation. Au revoir Kylian, au revoir Bastien.
Au revoir.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.